Simple conte des collines de Rudyard Kipling. Le saïs de Miss Yougal. Quand homme et femme s'entendent, que peut y faire un juge ? Proverbe mahométan. Certaines gens disent que l'un n'a rien de romanesque. Ces gens-là se trompent. Nos existences sont aussi romanesques que nous pourrions le souhaiter. Parfois davantage. Strickland faisait partie du corps de police et personne ne le comprenait. Aussi disait-on que c'était une étrange sorte d'homme et on s'écartait de lui. De cette situation, Strickland ne pouvait accuser personne d'autre que lui-même. Il professait cette théorie extraordinaire qu'en Inde, un policier doit en savoir sur les indigènes autant qu'en savent ceux-ci. Or, dans toute l'étendue de l'Inde supérieure, il n'y eut qu'un homme qui puisse à son gré se faire passer pour un hindou ou un mahométan, pour un possier ou un fakir. Il fut un objet de crainte et de respect pour les indigènes, depuis le Gor Khatri jusqu'à Jama Musjid. On lui attribuait le pouvoir de se rendre invisible et de faire exécuter ses ordres par un grand nombre de diables. Cela lui valut-il quelques faveurs du gouvernement ? Pas le moins du monde. Il n'obtint jamais de poste à Simla, et son nom est presque inconnu des Européens. Strickland eut la sottise de prendre cet homme pour modèle. Se conformant à son absurde théorie, il pataugea dans des endroits louches, où nul homme qui se respecte ne songerait à apporter ses explorations, et tout cela en pleine fripouille indigène. Il s'infligea une éducation qui dura 7 ans, et il n'en fut pas plus apprécié pour cela. Il passait son temps déguisé parmi les indigènes, ce qui naturellement n'inspire aucune confiance à un homme qui a son bon sens. Il fut bientôt initié au rite des Sadbhai à Allahabad, où il était en congé. Il apprit le chant du lézard, des Sansis, ainsi que la danse des Halihuk, qui est un cancan religieux de l'espèce la plus étonnante. Quand un homme a appris à danser le Halihuk et qu'il sait comment, quand et en quel endroit cela se danse, il sait quelque chose dont il a le droit d'être fier. Il a pénétré le caractère hindou plus avant que l'enveloppe. Mais Strickland n'était pas fier. Bien qu'une fois à Jagatri, il ait aidé à peindre le taureau de la mort, chose qu'un Anglais n'a même pas le droit de regarder. Il a pris à fond l'argot des voleurs et celui des castes les plus inférieures. Il prit à lui seul un voleur de chevaux de la tribu des Yusufzai, près d'Atok. Il monta en chaire dans une mosquée de la frontière et présida l'office comme l'eût fait un mollah sunnite. Mais son tour de force le plus extraordinaire fut de passer 11 jours chez un fakir dans les jardins de Baba Atal à Amritsar, et d'y réunir les indices qui devaient conduire à la découverte de l'assassin dans la grande affaire de Nazibal. Suite à quoi, on ne fit que dire, non sans raison, « Pourquoi donc Strickland ne reste-t-il pas dans son bureau à rédiger ses rapports et à enregistrer des recrues ? Pourquoi ne se tient-il pas tranquille au lieu de démontrer l'incapacité de ses supérieurs ?» Aussi, l'affaire du meurtre de Nazibal ne lui valut-elle pas une bonne note au département. Après sa première crise de rage, il en revint à sa manie naturelle de mettre le nez dans les coutumes des indigènes. Disons en passant que quand un homme prend goût à cet amusement, cela lui reste pour toute sa vie. Il n'y a rien de plus attrayant au monde, pas même l'amour. Alors que les autres hommes demandaient 10 jours de congé pour partir dans les collines, Strickland demandait une permission pour ce qu'il appelait un shikar. Il revêtait le déguisement qui lui semblait approprié à la circonstance, s'enfonçait dans la multitude des peaux brunes et disparaissait quelque temps. C'était un homme encore jeune, d'allure tranquille, au teint foncé, maigre avec des yeux noirs, un très agréable compagnon quand il n'était pas distrait. C'était un régal que d'entendre Strickland parler de la civilisation des indigènes telle qu'il l'avait vue. Les indigènes haïssaient Strickland, mais ils avaient peur de lui. Il en savait trop long. Quand les Yughals arrivèrent à la station, Strickland, avec l'extrême gravité qu'il mettait en toute chose, devint amoureux de Miss Yughal. Et elle s'éprit de lui au bout de quelque temps, parce qu'il demeurait pour elle une énigme. Strickland fit sa demande aux parents. Mais Madame Yughal répondit qu'elle n'entendait point marier sa fille dans l'administration la plus mal payée de l'Empire. Le vieux Yughal ajouta en toute franchise que les façons de Strickland ne lui inspiraient aucune confiance et qu'il serait bien obligé de ne plus parler ni écrire à sa fille. « Très bien, » répondit Strickland, car il n'entendait point faire de son amour un lourd fardeau. Il eut un long entretien avec Miss Yughal, après quoi il n'ouvrit plus la bouche à ce sujet. En avril, les Yughal se rendirent à Simla. En juillet, Strickland se fit donner congé de 3 mois pour affaires personnelles urgentes. Il ferma sa maison, bien qu'aucun indigène ne se fût pour rien au monde hasardé à porter la main sur ce qui appartenait à Estrichen Sahib. Et il alla voir un de ses amis, un vieux teinturier de Tarn-Taran. Là, on perdit toute trace de lui, jusqu'au jour où un saïs, m'abordant sur le mol de Simla, me remit l'extraordinaire billet que voici. « Mon cher vieux, veuillez remettre au porteur une boîte de cigares, de préférence des supérieurs numéro 1. C'est au club qu'on trouve les plus frais. Je les paierai dès que je reparaîtrai, mais pour le moment je suis retiré de la société. Bien à vous, Strickland. » J'en commandai 2 boîtes que je remis au saïs avec mes compliments. Ce saïs-là, c'était Strickland, et il était au service du vieux Yughal qui avait fait de lui le palefrenier du cheval arabe de Miss Yughal. Le pauvre garçon souffrait d'être privé de la fumée anglaise et savait que, quoi qu'il arrivât, je ne laisserais pas échapper un mot jusqu'au dénouement de l'affaire. Un peu plus tard, Miss Yughal, qui était très soucieuse de ses domestiques, se mit à parler dans toutes les maisons où elle allait de son saïs modèle, un homme qui trouvait tous les matins le temps de se lever de bonne heure pour cueillir des fleurs à mettre sur la table au déjeuner, et qui cirait, au sens littéral, les sabots de son cheval comme l'eût fait un cocher anglais. Le harnachement de l'arabe de Miss Yughal était une merveille, un charme. Du loup, c'est-à-dire Strickland, trouvait sa récompense dans les jolies choses que lui disait Miss Yughal lorsqu'elle allait se promener à cheval. Ses parents étaient enchantés de voir qu'elle avait renoncé à son sot caprice pour le jeune Strickland. Ils disaient qu'elle était une bonne fille. Strickland proclame que les 2 mois qu'il passa dans la domesticité furent la plus sévère épreuve mentale qu'il eût jamais endurée. Sans parler du fait que la femme d'un saïs de ses collègues était tombée amoureuse de lui et tenta de l'empoisonner avec de l'arsenic parce qu'il ne voulait rien savoir d'elle. Il lui fallait s'exercer à garder son calme lorsque Miss Yughal allait faire une excursion à cheval en compagnie d'un homme qui cherchait à lui faire la cour et qu'il était forcé de trotter derrière, portant la couverture et ne perdant pas un mot. Il lui fallait aussi garder son sang-froid quand il était interpellé en argot sous le porche du Ben Mor par un policier, et particulièrement quand il était injurié par un laïc qu'il avait recruté au village d'Isserjan, ou, chose pire encore, quand un jeune subalterne le traitait de cochon pour ne pas s'être suffisamment hâté de lui faire place. Ce genre de vie avait ses compensations. Il lui permettait d'étudier à fond les mœurs et les petits larcins des saïs. Et il y en avait assez, disait-il, pour faire condamner la moitié de la population du Punjab, s'il avait été de service. Il devint habile au jeu des osselets, auxquels s'adonnent tous les porteurs et un grand nombre de saïs pendant qu'ils attendent, le soir, à la porte de Government House ou du Théâtre de la Gaîté. Il apprit à fumer du tabac, composé aux 3/4 de bouse de vache, et il profita de l'expérience du doyen des saïs du gouvernement, homme grisonnant dont les paroles ont du prix. Il vit bien des choses qui l'amusèrent, et il déclare sur l'honneur que nul ne saurait avoir une idée exacte de ce qu'est Simla sans l'avoir vue comme la voient les saïs. Il dit aussi que s'il se décidait à écrire tout ce qu'il avait vu, on lui casserait la tête en plusieurs endroits. Strickland fait une description fort amusante de ses souffrances pendant les nuits humides, pendant qu'il entendait la musique et voyait les lumières du Benmore, que les pieds le démangeaient de l'envie de valser et qu'il avait la tête emmitouflée d'une couverture de cheval. Un jour ou l'autre, Strickland écrira un petit livre sur ses aventures. Ce livre vaudra la peine d'être acheté, et même celle d'être interdit. Ainsi donc, il servit fidèlement, comme Jacob servit Rachel, et son congé touchait à son terme quand l'explosion survint. Il avait réellement fait de son mieux pour garder son calme en entendant les flirts dont j'ai parlé. Mais à la fin, il éclata. Un vieux général, très distingué, emmena Miss Hugal faire une promenade à cheval et commença à badiner sur le mode « Vous n'êtes qu'une gamine », qu'il est si difficile à une femme d'esquiver avec quelque adresse et qu'il est si exaspérant d'entendre. Miss Hugal tremblait de peur aux propos qu'il lui tenait, à portée d'oreille de son saïd. Du loup, Strickland supporta cela aussi longtemps qu'il le pouvait. Puis il empoigna la bride du cheval du général et, s'exprimant le plus aisément du monde en anglais, il l'invita à quitter les lieux, sans quoi il le jetterait au fond du ravin. L'instant d'après, Miss Hugal pleurait. Strickland vit qu'il avait compromis sans remède son entreprise et que tout était fini. Le général eut presque une crise de nerfs quand Miss Hugal lui raconta, en entrecoupant son récit de sanglots, l'histoire du déguisement et de ses fiançailles en dépit de ses parents. Strickland pesta furieusement contre lui-même et plus encore contre le général pour l'avoir forcé à intervenir. Il ne disait mot, mais il tirait sur la bride de la monture du général et se préparait à lui administrer une raclée pour se donner au moins une satisfaction. Mais quand le général eut parfaitement compris de quoi il s'agissait, quand il sut qui était Strickland, il pouffa à perdre haleine, se tordant sur sa selle, et il riait tellement qu'il fut sur le point d'en tomber. « Strickland, disait-il, méritait la Victoria Cross, ne serait-ce que pour avoir porté la couverture qui est l'emblème du saïs. » Tantôt, il s'adressait à lui-même des insultes et disait qu'il méritait une bonne raclée, mais qu'il était trop vieux pour la recevoir de Strickland. Tantôt, il faisait à Miss Hugal des compliments sur son amoureux. Le côté scandaleux de l'affaire ne lui apparut pas, car c'était un bon vieux fort gentil, et il avait un faible pour les histoires d'amour. Puis il repartit d'un éclat de rire et déclara que le père Hugal était un sot. Strickland lâcha la bride de son cheval et suggéra au général qu'il ferait mieux de lui venir en aide, puisqu'il prenait la chose ainsi. Strickland connaissait le faible de Hugal pour les gens qui ont des titres, qui accumulent beaucoup d'abréviations honorifiques à la suite de leur nom et qui occupent de hautes situations officielles. « Ceci ressemble assez à un lever de rideau, dit le général. Mais n'importe, je m'en mêlerai pour vous faire un succès, ne fût-ce que pour échapper à la terrible correction que je mérite. Rentrez chez vous, monsieur le policier Saïs. Habillez-vous convenablement et je prendrai d'assaut monsieur Hugal. Miss Hugal, puis-je vous demander de rentrer au petit trot et d'attendre la suite des événements ?» Environ 7 minutes plus tard, il y avait au club un énorme tohu-bohu, un saïs avec sa couverture et sa corde autour de la tête, demandé à tous ceux qu'il connaissait « Au nom du ciel, prête-moi des habits convenables !» Comme on ne le reconnaissait pas, il eut quelques scènes d'un genre tout nouveau avant que Strickland eût pu obtenir un bain chaud avec de la soude, une chemise de l'un, un pantalon de l'autre, et ainsi de suite. Il partit au galop, emportant sur lui la moitié de la garde-robe du club, monté sur un poney qui lui était absolument inconnu, pour se rendre chez le vieux Hugal. Le général, dans son uniforme rouge de drap fin, l'y avait précédé. Ce qu'avait dit le général à Hugal, Strickland ne le sut jamais, mais Hugal reçut Strickland avec une cordialité modérée. Et Madame Hugal, touchée du dévouement qu'avait montré le faux Doulot, fut extrêmement bonne. Le général rayonnait et se frottait les mains. Miss Hugal entra, et avant même que le père Hugal sût bien où il en était, le consentement avait été arraché. Strickland se mit en route pour le bureau du télégraphe, accompagné de Miss Hugal pour se faire expédier ses effets. Le dernier de ses ennuis survint quand un homme, qui lui était inconnu, l'aborda vivement sur le môle et lui réclama un poney volé. C'est ainsi que Strickland et Miss Hugal finirent par se marier, à la condition formelle que Strickland renoncerait à son ancienne manie et s'en tiendrait à la routine, qui rapporte plus d'argent et vous fait plus vite envoyer à Simla. Strickland était trop épris de sa femme pour enfreindre son vœu, mais ce fut pour lui par la suite une pénible épreuve, car les rues, les bazars et les paroles qui s'y échangeaient étaient pour lui pleins d'indices. Tout cela l'invitait à faire une fugue, à reprendre ses découvertes et ses pérégrinations. Un de ces jours, je vous apprendrai comment il manqua à sa promesse pour tirer un ami d'embarras. Mais il y a longtemps de cela, et il est à présent presque entièrement perdu pour ce qu'il appelait la chasse. Il a oublié l'argot, la langue des mendiants, les marques, les signaux, la direction des courants de fond qu'un homme doit réapprendre sans cesse s'il veut demeurer un maître. Cela dit, il écrit ses rapports en parfait administrateur. Glossaire, Saïs, domestique qui accompagne son maître lors de ses sorties à cheval.